alors ce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils ont quitté l'Égypte et fugi d'Israël, ils ont entendu dire qu'il y avait les armées célestes et les parachutistes. Et la guerre contre eux. Oui. D'accord. Mais alors, ça c'est l'aspect du côté égyptien. Dans notre sujet, l'aspect du côté d'Israël, ce que tu dis là nous aide déjà à comprendre pourquoi les Hébreux ont eu peur. Parce que, premièrement, vous avez compris, premièrement, ils réagissent en monothéiste. Alors, je vais expliquer brièvement, mais ce n'est pas aujourd'hui déjà qu'on a la clé du problème. On va aller, c'est un peu plus loin dans le texte, mais je vais expliquer très brièvement. Tout se passe comme si vraiment le peuple s'est enfui de l'Égypte. Moïse leur a dit, allez, on va profiter. C'est le temps astrologique, c'est l'heure précise, on est sorti du temps égyptien. On va en profiter. Cette panique de la mort des premiers-nés les a paralysés. On va s'enfuir. Trois jours après, le pharaon a entendu dire, ils ne reviennent pas, ils t'ont trompé, ils ne sont pas allés rendre un culte à leur dieu, ils se sont enfuis. Et alors, le pharaon a pris conscience qu'il avait laissé partir Israël qui lui appartenait encore. Comment? Parce que le contrat des 10 plaies, les Tnaïm, la condition des 10 plaies, c'était « Laisse sortir mon peuple ou je te frappe de telles plaies. » Or, l'Égypte a été frappée des 10 plaies jusqu'à la dernière. Par conséquent, le peuple d'Israël appartient encore à l'Égypte. Ça veut dire que Israël sait qu'il n'a aucun droit à s'enfuir. Puisque l'Égypte a payé le prix. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a peur. Nous allons voir de manière beaucoup plus riche dans les textes, dans deux ou trois cours, peut-être vers la fin ou peut-être avant, ça dépendra des années. Je tenais déjà à éclairer ce que vous avez. Alors, de quel mérite de la foi il s'agit? Il s'agit précisément, j'ai pas fait exprès dans l'organisation des mots, d'une foi au-delà du mérite, sachant qu'il n'avait aucun droit de croire quand même que c'est possible. Et Dieu leur répond, vous n'avez qu'une seule chose à faire, même prier vous ne pouvez pas. Parce que je ne peux pas répondre à votre prière, puisque vous n'avez pas de droit contre l'Égypte, faites quelque chose et on verra bien. Si vous prenez ce pari d'entrer dans la mer, alors il y aura décalage avec l'Égypte. Alors je peux vous aider. Tant que vous ne faites rien, je ne peux rien. Vous voyez pourquoi même la prière ne pouvait pas être opératoire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'il y a une réclamation de l'Égypte en haut, qui n'a pas le droit de choisir pour eux contre nous, au nom de la justice. C'est une des explications possibles. Pourquoi? À cause, précisément, de la mort des premiers-nés. Jusqu'à la dernière plaie, l'Égypte a payé le prix. Puisque le contrat était comme ça. Laisse sortir mon premier-né ou je frappe ton premier-né. Il a frappé son premier-né. Alors le premier-né de Dieu lui appartient encore. Vous voyez le problème? Israël sait cela. Qu'il n'a aucun mérite supplémentaire sur l'Égypte à ce moment-là. Alors il a peur. Il a peur. Quatre réactions, vous vous rappelez. Bon, c'est perdu, c'est à vous. On espérait que l'Égypte ne se rende pas compte, ils se sont rendus compte, on se jette dans la mer, fini. On ne peut plus supporter l'exil d'Égypte, on n'a pas droit à la délivrance, et bien on arrête l'histoire. Deuxième réaction, on retourne en Égypte, après tout, les oignons d'Égypte, les pastèques. Donc, et la troisième réaction, et alors la guerre, on ne fait pas, il faut mourir, on meurt debout. Okay. Quatrième réaction, et Dieu n'existe pas, on ne peut pas prier. À ces quatre réactions, Dieu répond non, ça ne marche pas. La cinquième, c'est parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent un billet. Vous voyez le problème? D'accord. Mais cette foi implique, pas seulement extérieurement, qu'on est prêt au suicide, mais pour la foi, pas pour le suicide. Vous voyez le problème? Voilà. Tu as dit ça déjà hier, quoi. Oui. Tu étais assise là ou là-bas? D'accord. Vous voyez ce qui se passe? Cette option de foi, de Daber el Bene Israël Vissaou, Ken? Et vous n'avez qu'à contempler un peu le grand panneau là que vous avez à l'entrée en bas, d'Aber el Bene Israël Vissaou. Elle implique les quatre autres stratégies, mais au niveau de la foi, pas au niveau purement existentiel, y compris le quatrième niveau qui serait un niveau religieux. Oui, mais attention au jeu de mots possible ici. C'est une foi au-delà du mérite. C'est-à-dire, c'est une foi que même si on n'a pas de mérite, la promesse s'accomplira. Alors là, il y a une épaisseur de mérite de la foi, si j'ose dire. Pourquoi? parce qu'on va croire en une chose invraisemblable, non pas d'après des hérésies, d'après des théologies de non-croyants. Alors il dit c'est invraisemblable, mais invraisemblable d'après la loi de Dieu lui-même. Je reviens donc à la définition de la Gdoula, de la grandeur de Dieu, et que ça veut dire être plus grand que soi-même. C'est rattaché. Absolument.
N'avaient pas pris eux leur vie. Alors là, il était presque piégé.
Bon, je dirais, là, enfin, il était
obligé d'intervenir.
Là, il était content. Il a dit, cette foi gratuite leur a donné force sur moi. Mais c'est ce qu'il attendait. Ouais. Et regardez, la réalité est impitoyable. Parce qu'au niveau de la vérité, tout est clair. Et on se dit, ben c'est très bien. Et donc, on s'attend à ce que tout Israël, ma'aminim, venez ma'aminim, nous sommes le peuple de la foi, que tout Israël s'engage dans sa propre foi. C'est toujours en cela que l'on a cru depuis Abraham. Je n'ai pas encore expliqué pour Abraham, d'ailleurs, en quoi il avait mérite de croire d'un enfant. On a cru à des choses invraisemblables, mais pas invraisemblables pour la raison, invraisemblables pour la foi elle-même. Okay? Mais le Midrash va nous dire un seul homme a eu ce courage. Et c'est grâce à ce un seul homme que les autres ont suivi. Il a fallu un premier. Et c'est Nachshon ben Aminadab. De la même manière que, après les 40 ans du désert, se reproduit la même chose. Un seul va avoir le courage d'entrer en Eretz Israël. Et il entraîne les enfants. C'est Yehoshua et Caleb. Enfin, Yehoshua, c'est à la place de Moïse, mais c'est surtout Caleb ben Yefuné. Un seul. Je vais ouvrir une parenthèse tout à l'heure, rappelez-moi sur Pourim, c'est relié un peu à cela, mais je reviens à cette question d'Abraham. C'est que Abraham se connaît, selon la vraie loi du monde que Dieu a créée, comme ne pouvant pas avoir d'enfant. Il sait que s'il n'a pas d'enfant, ça vient de Dieu lui-même, et j'explique. Et quand ce même Dieu lui dit qu'il y aura quand même, c'est là qu'il est difficile de croire. Jusqu'à ce que finalement il arrive à intégrer cette foi-là. Alors la mutation religieuse dont j'ai parlé cette fois-ci. Pourquoi ? Qui est Abraham ? Abraham est le fils du grand prêtre de la civilisation du temps. Ça fait partie de ce que nous avons eu tout au début du cours, la fonction des Hébreux dans la civilisation du temps. Qui est Abraham ? Il est un Hébreu. Qu'est-ce que dit le Midrash ? Que son père était fabricant d'idoles. Nous avons souvent parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire fabricant d'idoles dans le Midrash ? Ça veut dire le grand prêtre de la religion du temps, qui fabriquait les symboles, les idéaux auxquels les croyants croyaient. Et suivant la religiosité de ce temps-là, au niveau de la religion naturelle, mais nous sommes toujours dans le monothéisme hébreu, Abraham se connaît comme la fin d'une civilisation. C'est-à-dire c'est une identité humaine qui connaît les lois qui président à l'histoire du monde, et selon la vérité de la volonté du Créateur, elle prend conscience d'elle-même comme à bout d'espérance, se connaissant comme stérile. Et c'est précisément à cet homme-là qu'Abraham, que Dieu dit, il s'appelle encore Abraham, tu seras fécond, tu n'es pas la fin d'une histoire antérieure, qui est le point de départ d'une fécondité pour l'avenir. C'est cette foi-là qui est difficile à intégrer au nom de la vérité. Pas parce qu'Abraham ne croit pas que Dieu ne soit pas capable de le faire, mais il entend deux voix contradictoires venant du même Dieu. Dieu, en tant que créateur du monde, et c'est la foi vraie, lui fait savoir qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Il est arrivé à la fin, ça veut dire qu'il est stérile. Il ne s'agit pas d'avoir un petit homme. Ça, nous savons qu'Abraham est capable d'avoir un petit homme avec n'importe qui. Agar, il lui fait Ishmael. C'est peut-être un clin d'œil du récit pour nous dire, ne crois pas qu'il n'est pas capable d'avoir un fils. Avec la princesse de l'Égypte, nous dit le Midrash. L'Égypte comme matrice, Ishmael. Et Ishmael, c'est des milliards d'enfants pour Abraham. Et c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être le point de départ d'une fécondité qui mènera à l'identité messianique. Or, Abraham se connaît comme la fin d'un cycle antérieur. Il est lui le fils de ses pères. Et voilà que Dieu lui dit, non, tu es le père de tes fils. Et ça se heurte à ce qu'il sait de lui-même. Et jusqu'à ce qu'il arrive à croire en cela, que Dieu peut être plus fort que lui-même. Ça veut dire qu'il y a un autre niveau de la providence divine. Pas seulement celle qui travaille à travers les lois de la nature. Et les lois de la nature appliquées aux sociétés humaines font que c'est la fin d'un cycle et qu'Abraham n'a pas d'enfant, okay, mais qu'il y a une instance de la providence supérieure au conditionnement naturel et qui s'appelle Hachem et pas seulement Elohim. Et Vehemin Abraham, Hachem, dit le verset. Qu'Abraham, et c'est son mérite, a été capable de croire dans la promesse de Hachem, qui est contradictoire à la décision de Elohim. Voilà, vous avez compris un peu le... Oui, il faut aller jusque-là. Et il faut confirmer par le mérite de la Akedat Yitzhak ce don du Fils. À la suite, le Midrash étend cela à toute naissance. Et en nous disant, c'est caché, c'est pas visible, mais chaque fois qu'un enfant naît, c'est le même miracle. Okay? Et qu'il faut arriver à le déceler. Que selon la nature, pure et simple, on ne voit pas pourquoi un homme a un enfant. Okay? Qu'est-ce qui fait que... mais nous sommes tellement familiers à ce miracle qu'on ne voit pas que c'est un miracle. Mais chaque fois qu'on a un enfant, on s'aperçoit de cela. C'est d'un néant absolu qu'il est né. Okay? Ça fait irruption dans la nature et on croit que c'est un phénomène naturel. Vous savez qu'il y a dans la prodigalité de la bénédiction une familiarité dangereuse. Une telle prodigalité de fleurs, par exemple, qu'on sait plus que c'est une fleur. Je me rappelle un chapitre dans Saint-Exupéry, où il y a dans Le Petit Prince, où il y a une planète avec une seule rose. Vous vous rappelez de cela? Alors on sait qu'est-ce que c'est une rose. Mais maintenant, ça nous a été banalisé, alors on a perdu, d'ailleurs les fleurs n'ont plus de parfum dans la situation contemporaine. Ce qui est inouï, une fleur sans parfum, je ne sais pas si vous réalisez, où on est arrivé. Et il y en a trop. Il y en a trop, alors ça enlève le prix de chacun, de chacune. Enfin, c'est un peu le problème d'hier soir, la multiplication avant la fructification. Vous vous rappelez? Ce qui est une catastrophe. Voilà, je crois que, dans l'essentiel, ce qu'il faut peut-être retenir de toute cette analyse, c'est peut-être cela. C'est que nous sommes dans un monothéisme absolu. Et par conséquent, on comprend que ce soit difficile de croire en cela, que Dieu peut me sauver de mon ennemi. Parce que c'est une relation réciproque. Parce que mon ennemi demande au même Dieu de le sauver de son ennemi qui est moi. Okay? Et par conséquent, c'est Dieu contre Dieu. Okay? Et alors, aucune des stratégies qui ont été indiquées n'est opératoire. Il faut quelque chose d'autre. Et alors, il fallait, ici nous sommes sur ce point, sur la mer Rouge, il fallait mettre à l'épreuve la capacité intellectuelle d'avoir foi. Il n'y a pas de contradiction. Okay? Vous voyez que là, l'option de foi, elle est au niveau de la vie intellectuelle. Croire que c'est possible et qu'il y a un mérite à cela. Parce que du point de vue de la vérité, c'est impossible. On a expliqué de la manière suivante. Après tout, il y avait la promesse. Et donc, les Hébreux là, n'avaient pas à se préoccuper, possible ou pas possible. Après tout, il y a la promesse. Eh bien, Dieu sait comment il l'accomplira. Okay? Mais il y a une inquiétude. Laquelle? Si cette promesse est faite pour Israël en général, donc elle s'accomplira pour un Israël en général. Mais moi, en particulier, est-ce que je suis concerné par cette promesse? C'est là qu'il y a l'inquiétude. Vous pouvez le dire d'une autre manière. Vous savez, dans la conduite de la foi, il y a simultanément certitude absolue et incertitude absolue. Certitude absolue que la promesse s'accomplira. Mais incertitude absolue, est-ce qu'elle s'accomplira pour moi? Et peut-être que le mérite qui fait qu'elle s'accomplisse pour moi, c'est pas tellement que je crois que Dieu peut le faire en général, mais qu'il le fera pour moi. C'est à ce niveau-là qu'est la foi, que ça me concerne. Et comme je me connais, alors c'est vraiment invraisemblable. D'où mérite de la foi. Le côté à peu près le... On n'est pas encore arrivé là, puisqu'on est au moment de l'inquiétude. Et qu'est-ce que dit ici le moment du commentaire? C'est qu'il fallait qu'ils soient éprouvés à la mer Rouge pour mettre à l'épreuve leur intelligence. Est-ce qu'ils sont capables de penser comme un Hébreu? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire penser comme un Hébreu? C'est savoir qu'une telle foi a un fondement. Et il y a un mérite exceptionnel à croire cela. Parce qu'au fond, c'est le devoir d'humilité qui risque de m'empêcher d'y croire. Que Dieu puisse envoyer le Messie, j'admets. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Qui suis-je? Pourquoi cette promesse me concerne? Et je crois que le courage de cette foi-là, c'est ça qui est cherché, que ça me concerne. Je me rappelle très bien, au moment de la guerre des six jours, la question que nous avons posée au rapport, c'était, on a posé plusieurs questions, mais surtout celle-là. Mais pourquoi ça arrive à nous? Et vous voyez comment pendant 2000 ans, les grands d'Israël ont espéré de voir cela arriver à Jérusalem, au côté de la Maravie libre, au bout de 2000 ans, et ça nous arrive à nous. Et vous voyez, c'est là qu'est le problème de la foi à l'échelle individuelle. Il nous a répondu une réponse que, très simple et très profonde à la fois. Il nous a dit, nous nous posons la question parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Mais la réponse est très, très simple. Si nous savions qui nous sommes, on ne se poserait pas la question. Ça veut dire, au fond, il faut croire que Dieu a eu raison de nous créer. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est ça la foi. Dieu, lui, doit savoir. Mais qu'il y ait une raison, qu'il ait créé moi, c'est ça le courage de la foi. Et c'est la clé de tout rêve. À partir du moment où je prends conscience de cela, alors je me dis donc que c'est important d'arriver à l'examen avec un dossier bien préparé. Hein, parce que je ne sais pas ce que je peux réussir, ce que j'ai à réussir ou à gâcher. C'est sûrement très important. Et, au fond, vous voyez, cette foi-là, elle est d'un optimisme radical. Mais elle est très difficile. Elle est très difficile. Et il arrive un stade de la connaissance où on commence à entrevoir qui on est. Alors la foi devient plus facile. Parce qu'elle devient connaissance. Et si je sais qui je suis, alors ça m'est facile de croire, de savoir pourquoi Dieu m'a créé. Mais tant que je ne sais pas, il y a un courage de la foi qui est une épreuve. Vous avez compris ça veut dire au fond, si je n'ai pas confiance en moi, je mets en doute Dieu lui-même, parce que c'est lui qui m'a créé. Donc il faut que j'ai confiance en moi pour que je commence à avoir confiance en Dieu. Je veux dire autrement, qu'est-ce que ça veut dire j'ai confiance en Dieu si je n'ai pas confiance en moi? Après tout, c'est lui qui m'a créé, donc il faut que j'ai confiance en moi. C'est ça le problème qu'il y a. Oui. Et alors, la faiblesse de la foi risque de venir d'une trop grande vertu d'humilité. Donc, beaucoup de gens se disent, Israël, moi, je ne mérite pas. C'est grave. Mais Dieu t'a promis à toi. Tu as oublié ça. Et vous voyez le problème. Ça veut dire, c'est une sorte de secret reproche fait à Dieu de m'avoir interpellé, mais c'est difficile. Bon, à l'échelle collective d'Israël, c'est clair. On comprend le mérite d'Israël à l'échelle collective. Donc, certitude absolue que la promesse s'accomplira. Où s'introduit l'incertitude à l'échelle individuelle? Est-ce que ça me concerne? Moi. Bon, c'est une des manières de comprendre cette différence. Alors, quelle heure est-il? Il est déjà presque midi. Bon, vous voulez 5 minutes de repos? Oui, 5 minutes qu'on a. On n'a pas beaucoup de temps, on va essayer. Nous sommes aujourd'hui donc jeudi. Il y aura encore cours demain matin, mais pas dimanche. Hein? Il y aura encore cours. Enfin, concours. Bien, alors nous sommes arrivés donc à la fin de l'explication de l'enseignement de Rabbi Eliezer, que le passage par la mer Rouge, c'était donc la mise à l'épreuve au niveau de l'intelligence pour savoir si cette partie du peuple serait capable de cette foi dont nous avons parlé immédiatement. La formule du Maharal, c'est « Imru ya'amin, v'itne midata emuna, bo itvarach, she'u yachol le'atzi la'adam mina oyu. » Et où est la difficulté? La difficulté était précisément dans le monothéisme lui-même. C'est clair. Bon. Alors on continue. Kolze asa kadosh baruch hu lahem. Tout cela Dieu a fait pour eux, leur a fait, qui be'et ayetzia. Parce que, au moment de la sortie d'Égypte, haya shchina kadosh baruch hu im Israël. La shchina, la présence de Dieu, était avec Israël. Il n'y a pas seulement la sortie des Hébreux d'Égypte. Il y a la sortie de la Shrina de l'exil. Ça veut dire ce qui est en question est beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. C'est pas seulement le sort d'Israël qui est en jeu, mais aussi le sort de la Shrina. Ça, c'est une dialectique que je reprendrai peut-être une autre fois, parce qu'il faudrait plus de temps que la petite demi-heure qui va nous rester. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est en exil et quel est l'enjeu? Et même vous rappelez du verset Ityatsu, Uru et Yeshurat Hashem, Asher Yahase Lachem. Vous vous rappelez du verset, je vous donnais la référence, c'est dans le chapitre 14. Rassemblez-vous et regardez et vous verrez. Verset 13 du chapitre 14, on l'a lu hier. Ityatsu, Uru et Yeshurat Hashem, Asher Yahase Lachem Ayom. Et j'ai traduit le salut que Dieu fera pour vous. Et vous entendez en hébreu Yeshua Tachem, le salut de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le salut de la Shrina. Parce qu'un monde où la Shrina est en exil, c'est un monde où c'est la Shrina qui est en exil. Alors il faut délivrer la Shrina de l'exil. Est-ce que vous percevez l'importance du problème ? J'indique simplement rapidement un peu la gravité de cette question. C'est que lorsque nous disons quand Israël est en exil, la Shrina est en exil avec eux, on l'entend en général pour les protéger. Mais on oublie ce que ça signifie. Et que pour les protéger parce qu'ils sont dans l'exil, il faut que la Shrina soit, elle, en situation d'exil. Et un exil de Shrina transforme le monde en enfer. Ça veut dire un monde sans Shrina. Parce que la Shrina est en exil de Shrina. Est-ce que vous entendez la différence ? Une minute, je vais terminer. Vous entendez la différence ? Et ça veut dire que derrière, plus lourd, en même temps que cette histoire du salut d'Israël, fin de l'exil pour Israël, se passe en même temps quelque chose d'une importance considérable, la délivrance de la Shrina. Vous suivez ? Et nous avons une autre tradition qui explique que et la Shrina est délivrée au prorata du nombre des Hébreux sortis d'Égypte. Et que la quantité de Shrina, si j'ose dire, on ne peut pas dire quantité pour la Shrina dans le monde, dépend de cela. Et alors, tout se passe comme si, consciemment ou inconsciemment, les Kohen savent ce problème. Que si la Shrina est en exil, c'est parce qu'Israël est en exil. Et que si le monde est privé de Shrina, c'est la faute des Juifs. Oui, jusqu'où ça va. Et il arrive que les Kohen se vengent. Parce que vivre dans un monde, dans Shrina, parenthèse, et que c'est la faute des Juifs, c'est un monde impossible, un monde sans Shrina. De ça, nous parlerons peut-être plus abondamment une autre fois, mais je voulais simplement l'indiquer à propos de ce que dit ici le verset. Nous avons beaucoup d'exemples de ce problème. Quand, par exemple, Jacob a béni ses enfants à la fin de sa vie, c'est à la fin du livre de Bréchit, et que au moment de les bénir, il s'aperçoit que il veut leur prophétiser la fin des temps d'exil et il ne voit pas la fin des temps d'exil. Alors il s'arrête dans les bénédictions et il dit un verset extraordinaire. L'Ishuatecha Kiviti Hashem. J'espère en ton salut, Dieu. L'Ishuatecha Kiviti Hashem. C'est en ton salut que j'espère, Hashem. Le pshat, c'est que je ne vois pas le mérite de mes enfants pour leur donner la fin de l'exil, mais j'espère que tu les sauveras quand même. J'espère en ton salut. Vous voyez, c'est très relié au problème de cette foi-là, disons-le. Or, ce pshat nous mène à une autre lecture. Bon, Israël ne mérite pas la fin de l'exil. Mais toi, il faut que tu sois sauvé. Alors voilà pourquoi je suis sûr qu'Israël sera sauvé. Il faut que toi, tu sois sauvé. Vous voyez la différence ? C'est à ce niveau de la foi. Je n'aurais pas été capable de vous exprimer ça hier. Je suis arrivé fatigué de l'avion. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Je pense que vous comprenez l'idée. Hein ? C'est que on arrive à une foi colossale, cette foi. Ça veut dire la foi que Dieu peut être sauvé. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu peut être sauvé ? La Shrina. Ça veut dire la présence de Dieu au monde. Celle-là est prisonnière, et il faut la délivrer. Mais comment ? Eh bien, c'est clair, c'est l'histoire d'Israël. Si Israël sort de l'exil, la Shrina sort de l'exil pour le monde entier. Et vous voyez pourquoi les Goïms sont pris dans une impasse. S'ils laissent partir les Juifs, la Shrina s'en va. Mais si la Shrina reste chez eux, elle est en exil. Alors ils préfèrent, à tour de rôle, l'une ou l'autre des solutions. Une petite Shrina, mais au moins elle est chez nous, ou bien une grande Shrina pour le monde, et quoi choisir ? Et finalement, la décision dépend des Juifs. Je veux dire ceci, ça touche au problème des causes profondes de l'antisémitisme. Toutes les argumentations des antisémites sont fausses, sont fausses. Ils nous reprochent des choses fausses. Il y a une seule chose qui est permanente, c'est cette espèce d'obsession incompréhensible de dire c'est la faute des Juifs, c'est la faute des Juifs, c'est la faute des Juifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est la faute des Juifs, quoi ? Que le monde soit sans Shrina. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais c'est ça qu'ils disent. Hein ? Non, je crois qu'ils le ressentent de manière diabolique, mais c'est ça qu'ils ressentent. De nouveau, nous sommes en cohérence de monothéisme total. Oui, c'est grave. Attendez, monsieur avait une question d'abord. Hein ? Ah, très bien. On commence à avoir de la... Comment vous appelez ça ?
Télépathie.
Télépathie. Quelle ?
Alors, c'est pour mois un poste de retraite, c'est après Mathias, en exil, donc avant Mathias, et donc
La question est, il y a une question préalable à ta question. Est-ce que c'est nécessaire d'être en exil pour être le peuple de prêtre? Ben, dans ce verset-là, il n'a jamais été dit en exil.
Dans ce pas conscient que les psychologues dont vous parlez, le fait qu'il n'ait plus de cela en Galoude, c'est pas grave, ça sera remplacé par le fait qu'on sera dans le fait qu'on a eu la partie de
phrase. Mais moi, j'ai pas dit que c'était grave.
Et alors, pourquoi eux ne le ressentent pas
À cause des... Vous savez, il y a une partie des goïms, surtout des chrétiens, qui le ressentent. Et qui disent aux juifs, vite, 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 retournez à Jérusalem, que la shrina se dévoile. Ils ont peut-être des arrière-pensées. On vous attend là-bas pour vous convertir en bloc. C'est une autre chose. Mais il y a beaucoup de chrétiens hérétiques qui n'ajoutent pas pour vous convertir. Mais ils sont hérétiques. C'est pas grave non plus. Vous comprenez le problème. Il y a ce fait qu'il y a une impossibilité à traverser, comment dire, à bousculer, qui est de l'ordre de la foi. Vous savez, dans les évangiles, il y a un verset qui m'a beaucoup frappé. C'est un verset où il est écrit « Le salut vient des Juifs ». Alors qu'on s'attendrait « Le salut vient du Christ ». Non, « Le salut vient des Juifs ». Bon, ils nous expliqueront puisque le Christ vient des Juifs. Enfin, c'est pas écrit comme ça dans le verset. Et... il y a une espèce de dialectique contradictoire que nous avons étudiée tout à l'heure d'une autre manière. Tant que les Hébreux sont en Égypte, la bénédiction est en Égypte. Pas question de les laisser partir. Okay. Mais alors tu viendrais leur dire, mais vous avez intérêt à les laisser partir, parce que si la bénédiction est à Jérusalem, c'est pour le monde entier en abondance, plus que quand les Hébreux sont en Égypte. Et ça, il faut la foi. T'as compris cette fois?
Il n'y a pas de bénédiction puisque la Shrina est en galoute.
Il y a une bénédiction à la hauteur de la galoute de la Shrina. Mais je veux dire une autre réponse. C'est qu'il y a des temps où la Shrina fonctionne dans l'exil. Et il y a des temps où elle ne fonctionne plus dans l'exil. Pourquoi? Parce que le temps d'exil a cessé. Et alors si la Shrina ne fonctionnant plus en exil, on ne la laisse pas à se libérer pour fonctionner à Jérusalem, c'est là que le monde se transforme en enfer. Et dans la mesure où les goyim le perçoivent inconsciemment à leur manière, alors ils déclenchent une haine contre les juifs qui nous est incompréhensible tant qu'on ne la comprend pas. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, c'est la suite. On continue à répéter, alors ça n'a plus de sens, ce qu'on a répété depuis le début du siècle. Oui, c'est à ton avis. Il y a un pépin, alors c'est la faute d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire derrière, la Shrina est prisonnière. Ils ne savent pas parler en hébreu, mais c'est ça qu'ils vivent, les pauvres. Je veux dire ça un peu autrement, je crois que j'en ai parlé une fois. Vous savez, pendant 2000 ans, les chrétiens ont dit une chose absurde, que les juifs étaient déicides. Bien. Subitement, ils s'aperçoivent, peut-être c'est pas vrai. On va réfléchir, bien, grâce à Jules Isaac et à d'autres. Et c'est quand même énorme. Pendant 2000 ans, ils ont fait de cela l'axe principal de leur foi. Et comment ils peuvent faire, mais ça c'est le secret de la conscience chrétienne, pour s'être trompé sur l'essentiel et rester infaillible. Parce que finalement, c'est ça qu'il nous dit. On s'est trompé sur l'essentiel, mais le pape est infaillible. Comment ils peuvent vivre comme ça avec ces contradictions? C'est leur mystère. Mais ce que je veux ajouter, c'est ceci. Et quand est-ce qu'ils commencent à douter que les Juifs aient tué Dieu? Quand les Juifs reviennent à Jérusalem. Ça ne vous a pas frappé? Ça veut dire qu'ils disent la même chose dans leur langage. Nous disons la Shrina est en exil. Eux, ils disent vous avez tué Dieu. Mais quand est-ce qu'ils commencent à changer d'avis? Eh bien, quand ce n'est plus le cas dans la réalité. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, ce que je dis là, il est bien évident que ça ne justifie en rien, bien sûr. Aucun antisémitisme fut-il chrétien. Parce que dans tous les cas, c'est des méchants. C'est autre chose. Mais voilà ce qu'il y a derrière. Il y a le fait que dans cette dialectique Galoute-Géoula, il s'agit bien sûr de l'histoire d'Israël. Mais plus profondément, il s'agit de l'histoire de la Shrina. C'est clair? Pas encore. Attendez, alors dites-moi. Ah, ah ben ça, d'accord, là je vais expliquer. D'accord, écoutez. D'accord, comment un homme peut tomber en syncope ? Le monde est tombé en syncope. Imaginez un homme somnambule. C'est un homme, il est somnambule. Comment son âme a pu être prisonnière dans je ne sais pas quoi ? Eh bien c'est ça, le monde est somnambule. Depuis 2000 ans, depuis la destruction du temple, vous n'avez qu'à suivre la littérature universelle depuis ce temps-là, et vous voyez que le monde est entré dans l'âge de l'absurde. Un enfant qui commence à grandir et qui prend conscience du monde dans lequel ses parents l'ont fait naître, se dit il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas un monde, c'est un enfer. C'est un monde sans espérance, c'est un monde sans... Vous voyez ce que je veux dire. Mais depuis quand? Depuis 2000 ans. Depuis la destruction du monde. Depuis que la Shrina est en exil. C'est-à-dire, cette philosophie de l'absurde, c'est la prise de conscience au niveau existentiel simple, de ce que le Midrash dit en disant la Shrina est en exil. Ça veut dire un monde qui ne porte pas l'évidence qu'il a un sens. Un monde où on attend une présence et on trouve une absence. Et n'importe quel enfant vous expliquera ça. Okay? Je pense qu'il est probable que ce soit ça qui nourrit la haine que les enfants ont pour leurs parents. J'ai cru, quand j'étais bébé, que tu m'avais mis au monde, mais tu m'as mis dans l'enfer. Alors, bien sûr, on n'ose pas le dire, mais c'est au fond, c'est ça qui se passe. Vous voyez à peu près le problème. Je vous ai cité une fois ce que disait le Rav Nachman de Vratslav. Il disait, on parle de Olamazé, Olamaba, ce monde-ci, le monde à venir. Il dit quelque chose de très fin. Il dit, Olamaba, je comprends. Un monde qui soit vraiment un monde, je comprends. Mais Olamazé, où c'est? Ici, c'est l'enfer. Vous voyez le problème. C'est clair. Mais quand? C'est depuis... il faut relire toute l'histoire de la culture humaine, depuis l'origine, des grandes civilisations impures, idolâtres, mais qui avaient une espérance, qui n'était pas la nôtre. Ils avaient une foi, disons. J'enlève le mot d'espérance, vraiment, leur foi n'était pas une espérance. Ils avaient une foi. Ils donnaient un sens à leur vie, de manière impure, de manière païenne, tout ce que vous voulez. Ces adjectifs n'ont aucune importance. Et puis, depuis 2000 ans, on entre dans ce que les traditions extrême-orientales appellent l'âge noir. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Okay? Le Kali. Eh bien, c'est exactement le temps de l'exil de la Shrina dans le vocabulaire hébraïque. Et pendant ce temps-là, les chrétiens, qui étaient la religion officielle de la civilisation du temps, disent une absurdité colossale à laquelle ils croyaient, sans savoir en quoi ils croyaient. Vous avez tué Dieu. Alors, il faut leur répondre au niveau de la raison. Mais enfin, est-ce qu'on peut tuer Dieu? Ah, c'est un mystère, mais vous avez tué Dieu. Mais ce qui m'a frappé, c'est ça. Quand est-ce qu'ils commencent à douter de cela, tout en restant infaillibles? Quand les Juifs reviennent à Jérusalem. Et là, il y a un espoir que Dieu va être ressuscité. Vous voyez le problème? Alors, quelle que soit la manière dont eux le disent, dont eux le pensent, ils seront punis pour ça. Mais le fait reste. C'est ce à quoi fait allusion le Maharal ici en disant, attention, au moment de la sortie des Juifs, Aya Shrina Takados Baruch Hu in Israël, la Shrina était impliquée, elle était dans le coup, si j'ose dire. Veratzal et Asir prient. Et Dieu a voulu enlever l'indignité d'Israël comme véhicule de la Shrina. Il a voulu les rendre aptes à être véhicule de la Shrina. Vous comprenez? Ils sont sortis la Shrina avec eux. Mais la Shrina était mal à l'aise. Elle avait un véhicule grossier. Alors il fallait épurer le véhicule. Est-ce que c'est clair? Bon. Oui, tous ces enseignements-là qui nous viennent des sources traditionnelles, faites bien attention, le vocabulaire qu'on emploie n'importe peu. L'essentiel, c'est que vous ayez intuition de quoi il s'agit. Et chacun le traduit à sa manière et on n'en parle pas. Parce qu'on ne peut pas en parler. Chacun a son expérience personnelle. Sinon, on emploie des mots qui sont hérétiques l'un pour l'autre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. C'est ce qu'on appelle le mystère. C'est les choses cachées. Parce que dès qu'on commence à en parler, on les viole. Et ça va jusqu'à du travail. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un a dit?
Vous avez dit tout à l'heure qu'en Roumanie, la Shrina était prise. Il y a des moments où elle fonctionne, des moments où elle fonctionne.
Qu'est-ce qu'a fait le temps de Mardoché et Esther que ça a fonctionné? Nahon, mais je ne sais plus de quoi je voulais vous parler à l'époque. C'était relié à quoi, rappelez-vous?
Vous
D'accord. Bon, alors on va terminer là-dessus aujourd'hui. D'abord, cette histoire de Purim. Nous avons dans la Gemara de Shabbat l'enseignement suivant. Si je me souviens bien, c'est page 88A. Si c'est pas 88A, c'est dans la région. Okay. Mais en tout cas, c'est A. Un enseignement qui dit, lorsqu'Israël est arrivé au pied du Sinaï, Dieu a soulevé la montagne et a dit à Israël, vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon je lâche la montagne, Sham Teek vous rattrape. C'est clair? Bon. Et puis alors, la Gemara dit, d'où contestation possible, grande contestation contre la Torah. Et un jour, je suis jugé par rapport à la Torah, j'ai pris une faute, je pouvais toujours dire, mais... La Gemara continue, ça s'appelle Modaha Rabba Leoraita. La Gemara continue, dit oui, mais au moment de Purim, il se dévoile qu'il l'avait vraiment accepté de bonne grâce. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Megillah qui est mouv et qui vlou à une vie. Les Juifs ont réalisé et accepté la Torah. J'ai beaucoup schématisé, mais c'est pour aller à l'idée essentielle. Et alors, ça veut dire, très, très schématiquement, au Sinaï, il y avait contrainte. Pourquoi? Parce qu'il y avait révélation. Si Dieu se révèle, qui peut dire non? C'est ça qu'exprime ce midrash. Arrivés au Sinaï, les Juifs étaient contraints, les Hébreux étaient contraints. Où est leur mérite? C'est pas d'avoir dit oui quand Dieu se révèle. C'était d'avoir accepté d'aller au rendez-vous où Dieu se révélerait, ils savaient ce qui les attendait. Vous suivez? Ça veut dire que Dieu a imposé la Torah, mais à qui? À ceux qui étaient prêts à l'accepter d'eux-mêmes. Mais il nous l'a imposé pour que ce soit définitif. Parce que si ça dépend de moi, l'homme, un jour je dis oui, un jour je dis non. Tandis que si c'est Dieu qui donne, c'est fini, irréversible. L'alliance est sans divorce. Vous avez compris le problème? C'est clair. C'est-à-dire, c'est Dieu qui impose, mais à qui? À qui était prêt à accepter. Mais il faut qu'il y ait la preuve qu'il était prêt à accepter. Cette preuve qu'il était prêt à accepter se fait quand la révélation cesse. La révélation prophétique a duré depuis Abraham jusqu'à Purim. À Purim, la révélation a cessé. Et pourtant, les Juifs ont continué à rester fidèles à la Torah. Ça dévoile qu'ils étaient déjà consentants au Sinaï. Est-ce que c'est clair? Voilà le problème. Mais le verset de la Megillah est écrit de la manière suivante. Il est écrit... Mais qui belle, au singulier. Et on lit... comme s'il y avait des kiblots. Ça veut dire, il est écrit, ils ont réalisé et accepté. Mais un seul avait accepté. Je reviens au midrash du Sinaï. Parce qu'en fin de compte, ce midrash est très étonnant. Qu'est-ce que dit le midrash? Dieu soulève la montagne. Et là, il dit, ou bien vous acceptez la Torah, c'est bien. Sinon, Sham Teek Vuratrem, là sera votre tombe. Or, ils ont accepté la Torah. Et pourtant, là a été leur tombe. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris la difficulté? Ils ont tous été enterrés au désert. Et à part Po, Terek Mouratre, mais Cham, comme dit le verset, or la raison pour laquelle ils ont été enterrés au désert, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Alors on apprend deux choses. Premièrement, qu'accepter la Torah et rentrer en Eretz Israël, c'est la même chose. C'est écrit dans la Gemara. Hein? Je ne vous cite pas Ben Gurion. Mais deuxièmement, c'est qu'en fait, il y en a un seul de cette génération qui avait accepté d'entrer en Eretz Israël, c'est Caleb ben Yefoulé. Caleb, et il y a un remède, une allusion dans le verset de la Megillah, que l'un seul avait accepté. Vous avez suivi? Maintenant, je reviens à la deuxième question qui m'a été posée. Les temps de la Shrina, et pourtant, en ce temps-là, la Shrina, oui, en ce temps-là, il y avait la reine Esther. De notre temps, il n'y a pas eu la reine Esther. Et alors, la Gemara, dans Megillah, pose la question suivante. Vous connaissez la règle, chaque fois que, et peut-être que la reine Esther aurait été là si on n'avait pas raté le rendez-vous, je reviens sur ce point, mais on a raté le rendez-vous, et c'était trop tard, la reine Esther était déjà partie, alors elle n'a pas fonctionné. Dans la Gemara de Megillah, on a posé la question suivante, vous connaissez la règle, chaque fois qu'un récit commence par Vaïli, c'est un malheur, vous connaissez. Or, la Gemara objecte. Et le début de la Megillah d'Esther, Vaïli, Bimé, Achashverosh, c'est un bonheur, on a été sauvé. La Gemara répond non, c'est un grand malheur. On a payé comme prix Esther. Ça, on s'en aperçoit pas. C'est-à-dire, le prix qu'on a payé pour que la communauté juive de Mardoché soit sauvée, c'est que la reine Esther n'était plus la reine d'Israël. Elle a pris la royauté avec elle, elle l'a donnée aux Perses. Tu veux ? Bon. Or, il y a un midrash, et ça va finir de répondre à cette question depuis la foi d'Abraham. Il y a un midrash qui compare le nombre des provinces qu'il y avait dans l'Empire d'Assyrie, 127, au nombre des années de Sarah. Vous vous rappelez de cela ? Pourquoi on nous a dit que Sheraou Vesri nommé à Médina ? Rappelle-toi, nous dit le midrash, que Sarah a vécu 127 ans. Et Esther a régné sur 127 provinces. Et un des grands maîtres des chassidim allemands, Rabbi Huda et Chassid, c'est pas les chassidim polonais du Baal Shem Tov, c'est un peu avant dans l'histoire, les chassidim d'Allemagne, a enseigné dans son livre, le Sefer HaChassidim, la raison pour laquelle le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah d'Esther. Il dit, nous avons vu une autre raison hier, vous vous rappelez, il dit, le nom de Hachem apparaît dans l'histoire des Tolados. Dans l'histoire des engendrements de l'homme. Or, les engendrements d'Israël ont commencé avec Sarah, et ils se sont arrêtés avec Esther. Vous voyez le problème ? Et c'est pourquoi le nom de Hachem disparaît. Elle a eu des enfants, mais ils ne sont pas d'Israël. Ce n'est pas des Tolados. Bon, les choses sont beaucoup plus amples que ça, mais c'est seulement restreint. Simplement pour montrer, pour répondre à votre question, nous avons un parallèle du rythme des événements extraordinaire. Entre les événements du temps de Mardoché, Esther à Pourim et les événements contemporains que nous avons vécu. Il y a eu la déclaration Cyrus, Koresh. Okay. Quelque temps après, Aman prend le pouvoir. Mais en ce temps-là, il y avait la reine Esther. De notre temps, il y a eu la déclaration Balfour. Quelque temps après, Hitler prend le pouvoir. Mais il n'y avait pas la reine Esther. Et vous voyez donc l'ordre des événements. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Eh bien, on apprend la Megillah d'Esther. Les Juifs sont restés en Perse, bien que Cyrus leur a dit qui veut, remonte. Et de la même manière, de notre temps, les Juifs sont restés en Europe, bien que Balfour l'avait dit qui veut, remonte. Et si vous voulez, demain, je vous apporte les dates exactes, et vous verrez le rythme des événements. Qu'est-ce que ça veut dire, pour finir de répondre à la question ? C'est énorme, cette histoire-là, à ne pas dire dans la rue. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement dans le fond des choses ? C'est que quand c'est encore le temps de l'exil, la Shrina a la force de protéger Israël. Quand c'est plus le temps de l'exil, elle a plus cette force-là. C'est ça le problème. Et effectivement, pendant ces 2000 ans, nous avons supporté les persécutions. Nous avons supporté le programme des goïms qu'ils appellent le pogrom. Mais, et puis arrive un temps où les persécutions ont changé de niveau. Où il s'agissait vraiment d'annuler le peuple juif. On a cru que ce n'était encore que des persécutions. On n'a pas perçu que le temps de l'exil s'était achevé. Et puis on se trouve devant le néant. L'interrogation est que fait la Shrina ? Eh bien, la Shrina est ligotée, elle est prisonnière, parce qu'il y a un contrat. C'est dit à propos de Jacob. Quand Jacob reçoit l'ordre, il faut que tu descendes en Égypte, pas, j'ai peur. Dieu lui dit, n'aie pas peur, je suis avec toi et je te ramènerai. Ça veut dire, je suis avec toi pendant tout le temps où tu dois y être. Mais quand c'est le temps de revenir, je reviens, je ne suis plus avec toi. Voilà, dit comme ça ou autrement, ça vous fait toucher du doigt un problème extrêmement grave. C'est que, donc, je vais terminer une phrase, c'est que, il y a une loi des temps. Pendant tout ce temps prévu pour l'exil possible, il y avait des étapes où on aurait pu mériter que ça s'achève. On n'a mérité aucune des étapes. Mais arrive la fin de l'époque. Et la fin de l'époque, c'est la fin de l'époque de Marie. C'est le même peuple, mais les conditions ont changé, parce que les temps ont changé. De quel point de vue ? Il y a un contrat de protection. Vous descendez en exil, et le temps prévu, revenez plus vite, mais le temps prévu, c'est jusqu'à cette date. Et si à cette date-là, les conditions du retour ont été données, mais le peuple n'a pas voulu revenir, alors c'est fini. Il n'y a pas de protection. Dans un langage imagé, je vous l'ai dit, la reine Esther n'était pas là. Elle était là, mais impuissante. À part les Nachshonim, et qu'est-ce qu'ils étaient, une poignée, qui ont perçu, ça a commencé en Russie d'ailleurs, qui ont perçu que ça changeait d'allure, que c'était vraiment le commencement d'un risque d'annulation du peuple juif, alors ils ont dit on décroche. Ils n'ont pas été suivis. C'est pas fini cette histoire. C'est pas fini, parce que c'est la même guerre, mais encore, c'est la même. Elle n'est pas finie. C'est Amalek qui travaille là-dedans. Chaque fois qu'il y a intention d'annuler identité d'Israël, c'est Amalek qui est derrière. C'était probablement pas par hasard que la Suisse est russe. Ça commence. Mais il faut avoir des yeux perçants pour... Bien, écoutez...